Il a des choses à dire, il va droit au but.
Voici le commentaire de Danny Dubé.
Nous sommes de retour au Centre Bell. Après 40 minutes de jeu, on a un bon match ici à Montréal. C'est 2-2 entre les Leafs et le Canadien. Danny, il y a toujours la situation chez le Canadien de certains jeunes, que ce soit oui. Nick Suzuki, Cale Fleury. Et là, on ajoute dans le débat Jesperi Kotkaniemi, oui. qui connaît des ratés en début de saison. Même encore ce soir, on voit que les intentions sont là, mais la façon de s'y prendre n'est pas toujours au oui. niveau de la Ligue nationale.
L'exécution, la vitesse.
Quelques oui. années auparavant, une situation comme ça avait été vécue avec Max Pacioretty oui. et tu as refait un peu l'histoire.
Oui, exactement. Et je veux partager ça avec nos auditeurs parce que moi, je suis un truc qui a dénoncé la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Mais oui. c'est pas, il y a rien d'absolu. Hein. Il y a des situations qui sont meilleures que d'autres. Il y a des situations qui conviennent à l'un et ne conviendront pas à l'autre. Alors, je prends la peine de le dire parce que pour chaque dossier, c'est différent.
Oui.
Mais ça nous intéresse parce que Max Pacioretty s'est amené avec le Canadien et à sa première saison en 2008-2009, ça n'a pas été concluant.
Non.
Et pendant, écoutez bien, là, pendant trois saisons, il a fait oui. la navette entre la Ligue nationale et la Ligue américaine.
Jusqu'à ce que?
Au total, ce que ça a donné 82 matchs dans la Ligue américaine. Et 133 matchs dans la Ligue nationale. Donc, vous faites le calcul, on est à 200 quelques matchs. Puis, il n'avait pas encore réussi à trouver sa place dans la Ligue nationale. Ouais. Chez les pros, il avait joué plus de 200 matchs.
Ouais.
Et donc, on a réussi à trouver une vitesse de croisière en 2011-2012. Donc, l'année avant le lockout.
Oui.
Cette année-là, il a joué 79 matchs, il a marqué 33 buts. L'année du lockout, en 44 matchs, il a marqué 15 buts. L'année suivante, en 79 matchs, on parle de 2013-2014, il a marqué 39 buts.
Et là, c'est parti. Là.
Ensuite, 37 et ensuite 30. Il a toujours été au-dessus de 30 buts, ouais. là, sauf la saison qui a précédé.
Jusqu'à sa dernière saison.
Il a précédé la transaction. Mais, ouais. mais écoute, c'est juste pour dire que vraiment, c'est pas dramatique pour un joueur d'aller dans les rangs mineurs s'il en a besoin.
Exactement.
Et si dans sa tête, le joueur est à l'aise avec la décision de l'organisation. Il y a eu, on se souvient de la déclaration de Pacioretty, j'aime mieux être dans les mineurs. J'aime ouais. mieux être dans les mineurs. Et ce qu'il comprenait par ça, c'est que lui, en étant ici à Montréal, ne répondait pas aux aspirations, aux attentes de l'organisation et des partisans. Alors, c'est très lourd à porter lorsque ouais. toi-même, comme joueur, tu dis, écoute, ça marche pas. Et qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Ben, je vais l'expliquer. Ce qui fait que ça marche pas, c'est que quand tu es en situation d'apprentissage, tu peux pas être en situation de performance. Mm-hmm. Ça marche pas ensemble. Alors, tu sais,
Tu peux l'être certains soirs, ben, mais pas tout le temps.
C'est-à-dire que tes attentes peuves pas être aussi élevées. Si tu vas tu demandes à un skieur acrobatique, quelqu'un qui va dans les compétitions internationales, on dit toujours est en train de bâtir pour éventuellement pour les Olympiques, oui. etc. Mais l'athlète s'en va là, il a pas les mêmes attentes.
Ben non.
Lui, là, OK, là, je veux faire ma meilleure performance, j'ai ça à tel élément, voici les éléments sur lesquels je dois absolument tabler pour améliorer ma performance, pour être à la hauteur de ce que je dois être. Quand tu demandes ça à un joueur qui est dans la Ligue nationale, dans un contexte avec lequel il doit composer à tous les jours, oui. un contexte très exigeant,
oui.
il doit produire, il doit faire gagner son équipe, aider son équipe à gagner parce que c'est un joueur offensif.
Ouais.
Ça devient très difficile. Alors moi, il y a des situations qui m'interpellent comme celle-là. Celle de Suzuki, celle de Kotkaniemi, celle du jeune Fleury.
Oui.
Et tu dis,
et on le voit ce soir, Denis.
Ils sont sur la glace. Les buts arrivent. Ces joueurs-là sont sur la glace. Il y a
deuxième but des Leafs. Kotkaniemi était là. Fleury, Suzuki. Confusion.
Il y a un peu de confusion. Ça va vite pour eux.
C'est
normal.
Oui.
Là, les jeunes nous écoutent, disent « Ah, OK, encore pareil à Montréal, on chiale après. Laissez-les jouer! » Parfait, on peut les laisser jouer, il n'y a pas de problème.
Oui. Mais il y aura un coût à ça.
Mais il y a un prix à payer.
Il y a un prix à payer.
Alors, si moi, l'organisation du Canadien de Montréal dit « Nous, là, on est dans un virage, puis on va travailler avec les jeunes. » Puis on les fait jouer, puis on comprend qu'il y a un prix à payer. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai bien entendu tout à l'heure l'entraîneur du Canadien dire « Je dois gagner des matchs. »
Et Danny, parce que c'est très bien ce que tu soulèves, parce que le mandat qu'on a donné aux gens de hockey, là, on n'était pas là, on n'a pas pu entendre. si le propriétaire avait dit, ben OK, on va être content si vous gagnez, on va être content si vous allez en série, mais la priorité, c'est de développer des jeunes pour dans trois ans.
Ça n'existe pas, ça, dans la Ligue nationale.
Non, mais si ça avait été ça, le mandat, oui.
Oui,
mais visiblement, on le voit de l'extérieur, c'est pas ça.
C'est pas ça, parce que la Ligue nationale, c'est la meilleure ligue au monde. C'est pas une ligue de développement, c'est une ligue de performance. Alors, il faut que tu sois en mesure de performer à la hauteur des attentes de l'organisation. Et lorsque le marché est très exigeant, ça, c'est une chose. L'autre chose, en terminant, Martin, c'est plus facile d'intégrer des jeunes quand tu as une équipe qui a des bons joueurs, des vétérans qui sont dominants. Les Canadiens ont des bons joueurs, mais c'est pas des joueurs dominants.
C'est ça.
Donc, la contribution de tous et chacun, lorsque
Domi,
le concept...
Dano, Gallagher sont des bons joueurs, mais pas des grandes stars dans la ligue.
C'est pas des joueurs qui dominent. Alors,
c'est ça.
Quand tu n'as pas de joueurs dominants dans ton équipe, mais là, la responsabilité de l'un et de l'autre devient encore plus importante. De là, l'importance que l'entraîneur peut porter à toutes ces situations-là, les situations des joueurs en disant, regarde, on doit avoir la contribution de tout le monde et tout le monde doit être responsable. Et responsable, c'est pas seulement en défensive, c'est aussi en attaque.
Merci. Toujours à propos, Danny, très intéressant le parallèle avec Pacioretty. Oui. Est-ce que tu savais, tu te souviens probablement, qu'il y a 6 ans, la Ligue nationale avait décidé d'imposer le port du casque protecteur et la visière à tous les joueurs? Le port du casque, ça fait depuis longtemps, mais tous les nouveaux joueurs, il y a 6 ans, étaient obligés de porter la visière. 6 ans plus tard, il y a 97% des joueurs de la LNH qui, aujourd'hui, portent la visière. Il y a 672 patineurs dans la Ligue et il y en a 19 de ces 672 qui ne portent toujours pas la visière. C'est une enquête qui a fait...
Est-ce que ce sont les joueurs préférés de Don Cherry, ceux qui portent pas la visière?
Je ne sais pas, mais je vais te nommer les noms. Okay. C'est le journaliste Frank Cerevalli de TSN qui a fait cette enquête intéressante. Il a interviewé quelques-uns d'entre eux, dont Ryan O'Reilly, qui est le gagnant du dernier Conn Smythe en finale de la Coupe Stanley, qui ne porte pas la visière. Ryan O'Reilly dit « J'ai pas l'intention de la porter. Je suis habitué comme ça, puis ça va rester comme ça. J'ai besoin de ma vision. » Écoute bien les autres noms. Ils ont presque tous un point en commun. Ryan Reeves, Wayne Simmonds, qui portait la visière, qui l'a enlevé lorsqu'il est arrivé au New Jersey parce qu'à Philadelphie, le directeur général sortant, Ron Extall, avait obligé la visière à tout le monde. Brian Boyle, Milan Lucic, les frères Ben, Chara, Engelin, Getzlaff, Haley à New York, un joueur physique, Cashton à Edmonton, Matt Martin chez les Islanders, Pollock, Andrew Shaw chez les Blackhawks de Chicago qui était avec le Canadien, Zach Smith, Joe Thornton et Chris Stewart. Le point en commun, ce sont tous des gars physiques.
Des gars qui se battent.
Des gars vieille école.
Qui lâchent les gants, puis les autres ils disent « Si je garde la visière, et je vais me faire reprocher d'avoir une visière puis d'être un bagarreur. »
J'affaiblis ma position de joueur physique.
C'est ça. Parce que, mais tu sais, moi, je pense qu'on est en... Si c'est en voie de disparition...
Ben, quand les gars que j'ai nommés vont accrocher leurs patins, ça va être terminé. Il n'y aura plus de joueurs sans visière dans la ligue.
Je faisais une blague parce qu'il y a plusieurs années, je me souviens très bien que Don Cherry publiquement avait dit que ceux qui portaient la visière, c'était des
peureux. Des peureux. Heureusement, on ne laisse plus dire des niaiseries comme ça.
Heureusement, on ne l'a pas cru.
Il en dit encore, mais moins. Voici
les résultats
des autres matchs.
On ne le croit pas.
Dans la ligue.